Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Pas sanitaire, si vous...
Bonjour.
Ouais, c'est bon. Bon spectacle. Je vous déconseille le premier rang parce qu'il postine pas mal. Mais c'est le même pas, ça ?
Bah oui.
Mais ça marche pas ?
Je vois pas le rapport.
Mais le rapport, c'est qu'il faut pas avoir le même pas, c'est chacun son pas.
Écoutez, j'ai un pas.
C'est chacun son passe. Passe ton chemin, passe le message à ton voisin et non pas ton QR code. Ça n'a pourtant rien de très compliqué. Mais c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, on avait malheureusement pris l'habitude de se balader avec son passe sanitaire ou vaccinal. Une façon de montrer patte blanche pour aller, par exemple, voir des spectacles comme celui de Franjo au Point Virgule à Paris.
Tu sais qu'il faut un passe pour rentrer.
Ah, je sais, ouais.
Donc t'as un passe, toi ?
Non, on parle pas, ça m'a coûté 300 balles, cette histoire.
Comment ça ?
Bah, j'ai payé 300 balles, puis la visée à côté, quoi.
Mais non, t'as pas fait ça.
Bah si, pourquoi ? Avec une infirmière.
T'es sérieux ?
C'est un peu une manière de redonner de l'argent à l'hôpital public.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et contrairement à ce que laisse penser ce sketch de Franjo qui m'a beaucoup fait rire, on ne va pas parler du défunt pass vaccinal. J'ai pas envie de faire le hapo à troll. Non. On va parler aujourd'hui du QR code, ce petit carré venu du Japon et qui a changé nos vies depuis l'apparition du Covid. Et ce n'est pas fini, car ses concepteurs ont encore plein d'idées dans leur musette.
Le QR code, tenez-vous bien, peut compter jusqu'à 7089 caractères numériques et 4296 caractères alphanumériques. Donc on comprend que le champ d'application est beaucoup plus large.
Rien à voir donc avec le code-barre d'une bouteille d'eau. Le QR code, on commence à en avoir l'habitude sur son application Tous Anti-Covid ou sur son billet de train, de cinéma ou d'avion. Il a envahi nos vies et pas seulement pour contrôler si l'on est vacciné ou pas. Il permet aussi de savoir quel est le menu du restaurant sans avoir à toucher une carte manipulée par les mains pleines de doigts des autres clients. Pourtant, le QR code de son nom complet Quick Response Code, code à réponse rapide, n'a pas été créé en réponse à l'épidémie de Covid-19. Il fêtera même dans 2 ans ses 30 ans. Yann Rousseau, correspondant du journal au Japon, a rendu visite il y a quelques semaines à son créateur dans le cadre d'un article publié dans les Echo Weekend. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors d'abord, qui est l'inventeur du QR code ?
Eh bien, c'est un ingénieur japonais qui s'appelle Masahiro Hara. C'est un monsieur qui a maintenant 64 ans et qui a toujours pas pris sa retraite. Hein. Il est toujours au travail, toujours dans la même entreprise qui s'appelle Denso Wave. Alors, c'est une filiale de la société Denso qui est un peu connue en Occident parce que c'est un grand équipementier du groupe Toyota. Et Denso Wave, ben, y a plusieurs investisseurs dedans. Il y a Toyota, il y a Denso et il y a aussi Toyota Tsusho. Et c'est un groupe qui fait à la base des appareils de lecture électronique pour Toyota. Et donc, ils ont été pendant très longtemps, ils travaillaient sur des lecteurs de code-barres, par exemple, rapides ou des caisses, comme des équivalents de caisses enregistreuses à l'intérieur des usines, des choses comme ça. Et ce monsieur Masahiro Hara, donc c'était un ingénieur qui a fait une université d'ingénierie et de mathématiques en province et qui a intégré juste à la sortie de l'école, Denso Wave, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de cas au Japon. Vous savez, vous êtes recruté dans votre dernière année d'université, puis vous restez toute votre vie dans la même entreprise. Donc lui, il est sur ce profil-là, et c'est quelqu'un d'assez timide, de très doux, très sympa, et qui explique comment il a inventé le QR code en y mêlant un petit peu des éléments de sa vie privée.
Pourquoi est-ce qu'il a été amené à travailler dessus ?
Alors, au début des années 90, les entreprises japonaises disent qu'elles ont besoin de faire des gros progrès en termes de productivité. L'économie, on est après la chute de la bulle, et donc les groupes ont vraiment besoin de se relancer. Et lui, il travaille sur une manière d'améliorer les rythmes de distribution des pièces des composants, des équipements, des pièces détachées pour Toyota. Et à l'époque, il y a des milliers, bien sûr, de pièces qui partent dans les différents modèles de voitures. Et ils se retrouvent, les ouvriers de Toyota, à devoir scanner des dizaines de codes-barres sur un même petit carton contenant telle ampoule, tel joint, tel élément de porte, parce que le code-barre est très limité en termes d'informations. Et donc, si vous voulez le joint bleu pour la Corolla de tel modèle, eh bien, il faut marquer votre petit carton de plein de codes-barres, et c'est très compliqué. Et donc, Denso Wave dit à Masahiro Hara et à son équipe, ils sont que deux à faire que ça toute la journée, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre ces codes plus efficaces? On gagnerait du temps, nous et les équipementiers et Toyota, quand il s'agirait de trouver la bonne pièce qui va sur la bonne voiture. Donc c'est ça sa mission au départ, au début des années 90. Et ça va donner lieu, donc en 93, il a sa solution, le QR code, et il va la présenter à ce moment-là à ses équipes internes chez Denso Wave, à sa direction.
Comment est-ce qu'il a alors l'idée de créer ce petit carré numérique ?
Alors, il part du principe que le code barre en noir et blanc n'est pas une mauvaise idée, mais qu'il est limité. En gros, un code barre, c'est 25 éléments alphanumériques que vous pouvez faire rentrer à l'intérieur, c'est inspiré du Morse. C'est un concept qui date du milieu du 20e siècle, hein, qui avait été inventé aux États-Unis. Lui, il se dit, puisque je suis dans un code vertical qui est limité en espace, pourquoi est-ce que je ne penserais pas un code en deux dimensions ? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des barres d'un côté, je pourrais avoir des barres allant vers le haut. Et donc, il va créer cette espèce de damier, hein, qui est aujourd'hui le QR code, avec une multitude de petites cases, ce qui va permettre de décupler le nombre d'informations qu'on peut mettre dans un code. Au lieu d'avoir une lecture horizontale, on va avoir une lecture en deux dimensions, et donc vous allez rajouter des couches d'informations, et c'est ça son concept. Ensuite, il va se dire, oui, mais comment faire pour que mon code soit lu par un lecteur et que le lecteur pense pas que je suis sur une photo de journal ou sur du texte? Alors là, il va créer ce que vous voyez dans un code. Si vous regardez très bien, il y a trois yeux à l'intérieur d'un code, des motifs noirs marqués sur trois codes, qui permet à un lecteur de voir qu'il est dans un code QR et qu'il n'est pas dans une page de journal ou dans une photo en noir et blanc. Et ensuite, il va créer des marges très spéciales, une densité de noir et blanc qu'on ne retrouve pas dans d'autres éléments de graphisme noir et blanc qu'on va retrouver sur des étiquettes, des affiches, ainsi de suite. Donc, il y a une densité de noir et blanc unique et cette lecture en damier, parce que ça va lui être aussi inspiré par le jeu de Go. C'est-à-dire que quand il était petit, il jouait énormément avec son papa, qu'il avait initié au jeu de Go, et il s'est dit, cette lecture, pourquoi, voilà, ce carré de Go, avec cette multitude de fonctions où je peux faire bouger, il y a mes pions de manière, il y a une possibilité infinitésimale de créer des solutions, il se dit, ça pourrait être la solution appropriée, et donc on arrive à ce dessin unique de QR code.
Comment est-ce que sa solution a été accueillie en interne ?
Alors, quand il présente au bord de Denso Wave, au début, comme souvent au Japon, où on n'a pas vraiment une culture de l'innovation de rupture. Vous savez, ici, on est dans l'innovation de graduation. Les Japonais vont être très, très forts, les industriels, pour monter en gamme un élément qui existe déjà. C'est-à-dire, ils vont faire des mémoires NAND plus puissantes. On va passer de 128 à 246, à 1000, ainsi de suite. Donc ça, ils savent très bien faire. Tout ce qui est l'innovation de rupture, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut changer la totalité, il faut prendre des risques, il faut avoir des supérieurs hiérarchiques qui vous laissent prendre des risques. Et c'est pas trop dans la culture japonaise d'aujourd'hui. Ça l'a été à l'époque des Sony, après la Seconde Guerre mondiale, ainsi de suite, mais ça l'est plus. Et donc, quand il le présente au board en 93, il n'y a pas d'enthousiasme du tout. Les gens ne comprennent pas ce qu'il essaye de faire. Et il va, en fait, aller voir les clients, et notamment des équipementiers, des gens de Toyota, et leur dire, regardez ce qu'on a inventé, est-ce que ça vous dirait d'essayer? Et eux vont être séduits très vite, parce qu'ils vont voir qu'on est sur un potentiel énorme. Parce qu'encore une fois, sur un code barre, vous faites rentrer 25 données alphanumériques. Là, sur un QR code qui peut évoluer, vous pouvez le faire plus ou moins compliqué, plus ou moins riche en informations, vous pouvez aller jusqu'à 7089 caractères dans sa déclinaison où les carrés sont les plus petits. Vous avez 177 modules en hauteur et autant en largeur. Et là, vous pouvez faire rentrer de l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Vous pouvez faire rentrer des nombres. Vous pouvez faire rentrer des caractères traditionnels chinois ou japonais. Ici, on appelle ça les kanji. En Chine, on parle de hanzi. Vous pouvez faire rentrer des katakana, des hiragana. Donc, c'est aussi des caractères simplifiés qu'on utilise au Japon. Vous pouvez faire même rentrer des signes de l'alphabet arabe. durable. Et donc, il y a une possibilité infinie. Et donc, les industriels vont être séduits et ça va par ruissellement descendre sur la direction d'EnsoWeb qui va dire « Banco, on y va ». Et là, ils vont commencer à développer à partir du milieu des années 90 les lecteurs à QR code et à les produire en masse. Et ça va se diffuser dans l'industrie japonaise, d'abord l'automobile, dans ces années-là.
Il y a je sais pas combien d'années que tu travailles à ce truc.
Jamais ça marchera.
Eh ben si, ça marche. Et le QR code Fed, c'est 28 ans, mais c'est vrai qu'il a mis du temps à rentrer dans la vie des Français. Il n'est là que depuis quelques années, avec une adoption massive liée notamment au pass sanitaire. Alors pourquoi, Yann, est-ce qu'il a mis autant de temps à émerger auprès du grand public ?
Alors, il a mis du temps pour vous en France ou en Occident. Nous, en Asie, on vit avec le QR code depuis plusieurs années. Vous savez, quand vous avez le pays de la région où moi je le vois le plus, c'est la Chine. Hein. On le voit énormément en Chine depuis 2017-2018. Vous pouvez passer des journées entières en Chine sans jamais toucher votre portefeuille puisque vous payez tout en QR code. Vous allez prendre votre métro en payant en QR code. Vous allez prendre les achats de votre bouteille de soda dans votre petite supérette ouverte 24h/24 avec un QR code. Vous allez aller au cinéma avec un QR code, c'est-à-dire que vous émettez un QR code au vendeur qui va le scanner et immédiatement ça connecte à votre banque et on déduit la somme de X yuan ou X yen ici au Japon quand on s'en sert. On s'en sert aussi beaucoup en Asie du Sud-Est de la même manière. C'est arrivé au Japon très tôt parce qu'on avait des téléphones qu'on appelait des Keitai, qui étaient des téléphones qui se dépliaient. Donc, on est avant le smartphone, qui ont eu assez vite des lecteurs de QR code. Et ça s'est développé dans le reste du monde vers 2016-2017, quand les smartphones ont commencé à avoir leur lecteur de QR code intégré, notamment sur l'iPhone. Et donc, ça a explosé en Asie du Sud-Est et en Chine. Alors, en Occident, ça a mis un peu plus de temps. Longtemps, ça a été vu comme une solution vraiment pour les nerds et pour les industriels. Mais bon, on le voit que ça se déploie maintenant dans les solutions de paiement un petit peu en Europe, en France, vous le voyez aussi avec les menus, quand il a fallu éviter de toucher les menus dans les restaurants à cause du Covid-19. Bon, on a eu cette solution qui se déploie, mais ça arrive massivement dans toute l'Asie en solution de paiement. C'est vraiment la solution numéro un qui s'impose et probablement que ça va arriver aussi en Europe, bien au-delà du pass sanitaire, quand les gens vont s'habituer à cette solution et voir qu'elle est extrêmement efficace, extrêmement rapide.
Yann, le QR code devrait gagner en popularité en Occident comme solution de paiement, vous le disiez, mais vous racontez aussi dans les Échos Week-end qu'en Asie, le QR code est aussi en train de changer un système ancestral, celui des offrandes.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on voyait un petit peu avant dans certains temples un peu modernes, mais qu'on voit beaucoup depuis donc mi-2020. Quand vous êtes dans un temple au Japon, vous savez, les Japonais sont pas religieux, mais ils aiment bien aller dans les temples pour les grands événements, les grandes fêtes nationales. Et donc, vous faites par exemple des offrandes. Quand vous arrivez donc à l'entrée du temple, il y a une petite boîte avec une espèce de grille. Et normalement, vous jetez à l'intérieur de cette grille, ça s'appelle la Saisenbako, hein, c'est cette boîte à offrandes. Vous allez jeter une petite pièce et puis vous allez claquer deux fois dans vos mains, puis vous allez vous incliner et puis vous faites un vœu en quelque sorte. Eh bien, ça forçait les gens à toucher des pièces, à les envoyer, ça a forcé aux gens du temple ou aux moines d'aller les toucher, donc on s'est dit qu'il y avait un danger. Donc certains temples ont commencé, notamment dans la ville de Nikko, qui est une ville ancienne à 2 heures de train d'ici, superbe, dans des forêts de cèdres, un très bel endroit, à mettre des offrandes numériques. C'est-à-dire que juste à l'entrée des escaliers qui vous amènent à cette Saisenbako, vous allez faire les offrandes, vous allez avoir un petit panneau et vous allez scanner avec votre téléphone le QR code et puis vous dit vous avez envie d'offrir combien 10 yens, 100 yens, donc 10 centimes d'euros, 1 euro, ainsi de suite. Alors l'offrande, normalement, c'est goen, 5 yens, parce que si je traduis en japonais, goen, c'est aussi le même mot que destin ou chance. Et donc normalement, vous jetez une petite pièce de goen, donc là, on est sur du 5 centimes d'euros, si vous voulez. Mais on le fait maintenant de manière numérique. Et il y a plein de choses comme ça qui ont été digitalisées, même dans cette vie religieuse. Par exemple, il y a autre chose, ce sont les qu'on retrouve beaucoup dans les temples à la nouvelle année. Vous y allez avec votre famille et puis vous retirez ce qu'on appelle des omikuji. C'est des petits papiers un peu divinatoires que vous dépliez et qui vous annoncent comment l'année va être pour vous. Bon, au lieu d'avoir les gens qui se pressent autour du petit endroit où on retire ces papiers, alors vous allez scanner aussi un QR code et puis votre omikuji, donc votre petit papier qui va vous donner votre destin. destin sur l'année arrive de manière digitale sur votre smartphone et vous pouvez le lire tranquillement loin des autres en respectant la distanciation sociale. Donc il y a eu cette petite application qu'on voit maintenant dans pas mal de temples dans les grandes villes, à Tokyo, à Osaka, à Kobe, à Nagoya.
Mais vous avez rencontré, vous, Masahiro Hara. Est-ce qu'il a été surpris par la popularisation croissante de son invention ?
Oui, totalement, parce que il était, lui, c'est vraiment un industriel, un ingénieur. Et, à aucun moment, il avait cru qu'il avait envisagé ça. Et puis, les premières années, de fait, les solutions que lui développe technologiques, c'est vraiment purement pour les chaînes de logistique des industriels de l'automobile, dans la pharmaceutique, un petit peu aussi, ça s'était beaucoup développé, quand il y avait la maladie de la vache folle et toute cette inquiétude en Asie sur le traçage, vous savez, des éléments. Donc au lieu d'avoir des étiquettes à rallonge, on avait simplifié dans des QR codes l'origine des produits, en l'occurrence à l'époque de la viande de bœuf, pour pouvoir rassurer les gens. Donc lui, il voyait ses applications en B2B, si vous voulez, en business to business, il ne les voyait pas auprès du grand public. Et puis, ça a explosé vraiment dans les années 2010 à l'étranger ici. Et il en est fasciné. Et ce qu'il faut dire, c'est que DensoWave, très vite, comme il y avait ce code-barre universel utilisé dans le monde entier, quand la solution QR code a paru intéressante, ils n'ont pas appliqué de, donc ils sont propriétaires des brevets liés au QR code, mais ils n'appliquent pas de royalties. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui créer une entreprise qui va émettre du QR code sans payer de royalties à DensoWave. Donc la solution est presque gratuite pour ses utilisateurs. Donc DensoWave n'est pas devenu milliardaire avec le QR code, et Masahiro Hara reste un ingénieur de base qui n'a pas fait fortune avec son invention, mais ça a permis à son groupe de développer tout ce qui a été les lecteurs, les analyses, les émetteurs de QR code. Donc ils ont gagné de l'argent avec ça, mais si vous voulez, il n'y a pas eu de boom de la fortune de DensoWave ou de Monsieur Hara grâce à cette invention géniale.
Je suis pas millionnaire, donc comment faire ? Mon salaire dépasse pas les 20K mensuels.
Vous parliez, Yann, tout à l'heure du tournant de la fin des années 2010 au Japon, mais pour le QR code, il y aura vraiment un avant et un après Covid ?
Alors, il y aura un avant et un après Covid en Occident, oui, parce que les solutions que vous appliquez avec le pass vaccinal, pass sanitaire et maintenant pass vaccinal, c'est sûr que ça a bouleversé le quotidien et ça a familiarisé cette solution avec la totalité des Français et certains Européens. Au Japon, nous, on n'a pas cette application sanitaire, par exemple. Au Japon, on n'a pas de passe vaccinal ou passe sanitaire. On ne se sert pas du QR code à des fins de lutte contre la pandémie. Par contre, c'est très utilisé en Chine à des fins sanitaires. Donc, il y aura un avant et un après en termes de familiarisation de cet outil avec la population européenne, c'est sûr. Et puis, c'est l'ouverture vers d'autres solutions, parce que ce n'est pas la fin de l'histoire.
Justement, Yann, vous parlez d'avenir. Le QR code a d'autres cordes à son arc ?
Alors, le QR code, si vous écoutez Hassan, M. Masahiro Hara, il y a encore plein de choses à faire. Lui, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas, par exemple, sur un QR code avec de la couleur ? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, si je rajoute des couleurs, à chaque fois, je multiplie le nombre de solutions possibles. Donc, je peux écrire des messages encore plus différents, encore plus complets, encore plus longs. Il réfléchit, par exemple, à des codes qui seraient très riches et qui auraient en eux-mêmes une petite vidéo, c'est-à-dire quelques data audio ou visuelles ou vidéo qui seraient, par exemple, imaginez un monde, il y a une catastrophe naturelle, on est très sensible à ça au Japon, vous avez une catastrophe naturelle, coupure de l'électricité, coupure d'Internet. Eh bien, vous pouvez, dans une usine, avoir un QR code qui est riche et qui va avoir toutes les datas nécessaires à la lecture d'une petite vidéo d'urgence ou médicale de 30 secondes. Vous pouvez avoir aussi, chacun autour de notre cou, on pourrait avoir une petite vignette avec notre QR code, avec tout notre bilan médical pour quelqu'un qui aurait des maladies du cœur ou qui serait susceptible de faire une crise d'épilepsie. On scanne, on sait immédiatement quel est le statut médical de la personne. Et puis, il y a des chercheurs à qui j'ai parlé à Copenhague qui travaillent sur des médicaments qui seraient imprimés directement sur des QR codes. Donc l'idée, ça serait de se dire, voilà, il y a des médicaments qui sont très sensibles, qu'il ne faut pas mélanger, que personne ne peut utiliser. Donc en les imprimant sur un code QR code, on pourrait avoir la dose qui va très bien avec une seule personne. La personne scanne et elle est sûre que c'est son médicament, sa dose, que la date d'opération est telle, voici les composés. Donc ils sont en train d'imprimer notamment des médicaments, des vignettes médicamenteuses en forme de QR code avec, par exemple, des doses de CBD ou de THC. Vous savez, ce sont des composants qu'on trouve dans le cannabis, donc il ne faut pas les donner à tout le monde. Ce n'est pas comme un paracétamol ou une aspirine qui pourrait être utilisée par tout le monde. Et donc, ils réfléchissent à créer des médicaments en forme de QR code pour simplifier, pour rassurer et pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation.
Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos au Japon, pour les dessous du QR code. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts ou encore Castbox, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.